What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No. Not wounded,
sir.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosce?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Menose fattissimo. Proprio fattissimo.
Curieux, amateurs, amoureux de cinéma d'Ardèche et du monde entier, bonjour. Vous êtes sur Fréquence 7 et vous écoutez Cinémascope, le magazine du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, on va parler en compagnie d'Olivier et d'Olivier.
Il y a Olivier aussi qui
et Olivier.
Oui, vient,
Olivier.
Oui.
On parlera donc du film Amore Mio et puis du film Amore Mio. Et peut-être tu voulais reparler du film La famille Asada.
Oui, j'ai beaucoup aimé et je trouve que c'est une fenêtre ouverte sur la culture japonaise tout à fait passionnante. Alors j'avais un petit peu envie de donner envie aux gens, d'aller le voir.
D'aller le voir, d'accord. Et puis si jamais, peut-être que Julien nous rejoindra pour parler de retour à Séoul, mais rien n'est moins sûr. On parlera aussi en fin d'émission, bien sûr, de l'actualité du cinéma, et on commence tout de suite par notre petit état des lieux du cinéma en Ardèche et au-delà, puisque j'ai posé la question à Cathy Géry, directrice de la Maison de l'Image, comment voit-elle l'avenir du cinéma ?
Historiquement, le cinéma a toujours su rebondir face à plein de... Voilà, l'arrivée de la télé, l'arrivée de Canal+, dans les années 80 aussi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Ce qu'on a la chance d'avoir en France, c'est quand même un système qui est bien en place avec le Centre national de la cinématographie, avec la chronologie des médias. On a ce côté, en tout cas, bien réfléchi et préservé quand même, qui n'existe pas, qui est unique, hein, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, qui est un grand pays évidemment aussi de cinéma, mais qui finalement ne produit pas grand-chose maintenant de très, de très remarquable par rapport à un certain âge d'or du cinéma américain. Et moi, je vois l'avenir du cinéma toujours présent. Enfin, la salle de cinéma, on ne pourra jamais l'enlever. La présence des plateformes, effectivement, elles ont pris énormément de place à une époque où les cinémas, on nous obligeait à fermer. Donc, effectivement, même moi, enfin voilà, je pouvais pas aller en salle, donc j'ai regardé des films sur des plateformes. C'est un peu, on va dire, une obligation de passer par là. Donc, il y a des habitudes, effectivement, qui ont été prises. L'année 2022 est une année qui n'est pas complète, parce que début 2022, on avait encore l'application du pass vaccinal jusque quasiment mi-mars. Donc là, j'espère que sur 2023, on pourra avoir une année complète. Mais on sent quand même que, bon, déjà à travers les festivals, c'est sûr, parce qu'il y a aussi une façon d'accompagner les films, une proposition qui est plus large et qui est plus intéressante aussi pour le public. Et puis certainement que nous, en tant qu'exploitants de salles ou de circuits itinérants, on doit se poser des bonnes questions. Et ça demande une énergie, donc c'est vrai qu'on a du mal à imaginer une version festival 365 jours sur 365, mais on sent bien que les gens, ils ont envie de cinéma, ils ont toujours cette envie de cinéma, ils ont peut-être envie aussi d'un peu autre chose autour de uniquement le film, mais que, on va s'éloigner petit à petit d'une période où les gens n'avaient pas tellement de choix, parce qu'il faut aussi se rappeler que quand on a réouvert les salles en 2020, il y avait une offre très limitée, il y avait beaucoup de films à réessayer. Bon, effectivement, les gens, un public qui a trouvé son compte et puis un autre public non. Donc ce public-là, qui correspond quand même pour des salles généralistes, comme le navire, par exemple, le public qu'on dit occasionnel, qui vient sur des blockbusters, va représenter quasiment 60% du public. Donc effectivement, quand on réouvre en 2020 et que les films que ces gens attendent, que ce public attend, ne sont pas là, bah, ils ne viennent pas en salle. Donc, ils font autre chose. Soit ils voient des films sur des plateformes, soit ils vont à la plage, ou je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, ils ne vont pas au cinéma, parce qu'il n'y a pas l'offre de films. Il a fallu attendre quand même plusieurs mois, presque 6 mois, au moins minimum, pour que petit à petit, on retrouve des sorties. Les Américains étaient super frileux, et on sait bien que le marché américain est quand même très, très présent dans nos cinématographies. Il a fallu attendre quand même que la situation s'assainisse un petit peu pour recommencer à trouver des films que ce public occasionnel pouvait avoir envie de voir. Donc là, c'est très conjoncturel en fait. Là, on commence à sortir un peu de ça. On a vu qu'effectivement, par exemple, Avatar, La Voix de l'eau, a ramené un public qui ne venait plus en salle aussi. Donc ça donne une envie. Mmh. On sent qu'il y a cette envie-là. Voilà.
Mais donc, il y a certains films, en fait, les films en eux-mêmes, je ne sais plus qui disait, au-delà même de l'accompagnement, la force des films, c'est quand même d'amener les gens. Il y a certains films qui ont encore cette capacité d'amener les gens en salle.
Oui. Ouais. Mais il y en a peut-être, et il y en aura peut-être moins qu'avant, parce que il y a aussi des choix stratégiques de la part de majors, hein, comme par exemple Disney, hein, qui a annoncé qu'effectivement certains de ses films ne sortiraient plus en salle, mais directement sur la plateforme Disney. Et effectivement, pour certains exploitants de cinéma, c'est un vrai problème, parce que c'est vrai que ça a amené des gens en salle, et ce public-là ne viendra plus. Mais bon, il y a énormément quand même de films. Disney ne fera pas non plus n'importe quoi. Il sait très bien aussi que les films qui sortent en salle, ouais, quand ils sont après sur des plateformes, ils marchent très bien, alors que s'ils n'ont pas été vus en salle, ils ne marchent pas sur plateforme. Enfin bon, bref, des fois, c'est un peu paradoxal, mais il y a quand même tout un process qui se met en place. Et bon, ils voient bien quand même que tout n'est pas idéal à sortir sur une plateforme. Donc peut-être qu'il y aura moins de films qu'avant, en tout cas moteurs. C'est vrai que là, si on prend depuis décembre 2021, il y en a 3 en fait. C'est le Spider-Man qui sort sur la fin de l'année 2021. C'est Top Gun. Et puis en juillet, et puis La Voix de l'eau, Avatar, là en décembre. Ça fait peu, alors qu'avant on pouvait trouver pratiquement un film par mois qui était comme ça très fédérateur et moteur pour les salles. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui change, en tout cas actuellement, mais peut-être que ça va s'estomper, et puis c'est Louis Garrel, hein, qui disait que lui, justement, il croit au retour en salle des publics. Il pense que cette habitude que les gens ont pris de se mettre devant leur télé et de profiter de ce qui est proposé sur une plateforme va s'estomper, et qu'on va revenir quand on va être sûr de pouvoir vivre comme avant, comme avant Covid. Eh bien, que le public retrouvera la salle de cinéma, parce que ça reste, et puis c'est ce qu'on défend en France, hein, c'est le lieu dans lequel on découvre une œuvre, hein, c'est la salle de cinéma. Après, elle va sur des plateformes, mais sa première sortie, sa première expérience, c'est au cinéma, dans une salle.
Ouais, c'est le lieu où découvrir une œuvre.
Ouais.
Ouais. Se laisser chambouler, toucher par
Oui, parce que toutes les conditions sont réunies pour que ça soit magique, évidemment.
Et juste dernière question, comment vous maintenez ce désir de cinéma chez les gens?
Alors je crois qu'il faut le maintenir par la diversité. Il faut, par exemple, mon collègue Thiago, qui est parti au Brésil dans son pays pendant les vacances, il m'expliquait que un complexe de 8 salles, il y avait 6 salles qui diffusaient Avatar. Bon, ça, c'est un truc qu'on verra pas en France. Dans un cinéma, quel qu'il soit, même comme ça, avec 8 salles, jamais un exploitant va mettre 6 salles sur 8 avec le même film. Ça aussi, c'est important de rappeler qu'en France, on défend quand même beaucoup, beaucoup de choses, et les œuvres aussi en particulier, même s'il y aurait certainement des choses à revoir et il y a des choses à redire, mais en tout cas, on préserve des œuvres. Donc c'est cette curiosité-là sur des filmographies étrangères, donc comme on fait avec aussi les cinémas d'Europe. C'est être force de proposition aussi, qu'il y ait une rencontre qui se passe, plus de rencontres qui se passent, je pense aussi, dans les salles, avec des cinéastes qui viennent parler de leurs films, des techniciens qui viennent parler de leur travail. Une autre approche qui peut intéresser un plus large public, quoi, des tout petits, c'est aussi ce qu'on fait à travers l'éducation aux images. Quand on présente évidemment les films dans les cadres des dispositifs scolaires, mais quand aussi on va en classe leur parler de la fabrication du film. Et il faut que cette magie-là, elle puisse rester, en fait. Et donc, voilà, je ne sais plus quelle était ta question de base. Perdu dans le truc.
Maintenir le désir du cinéma.
Voilà, maintenir
le désir et la magie.
C'est bien, ouais, j'ai bien raccordé les wagons, ça
va. Le désir et la magie du cinéma, bah ouais. Merci.
Mais de rien, avec plaisir.
Ouais, agréable quand même, cette Cathy, j'aime bien.
Si vous voulez en savoir plus justement sur le désir de cinéma, sachez que cette interview a été réalisée pour un documentaire sur le cinéma en Ardèche qui interroge l'histoire et le désir de cinéma sur notre territoire, que vous pourrez écouter mardi 28 février à 13h. C'est un documentaire réalisé pour l'émission Aura des Pâquerettes et en replay sur le site de Fréquence 7. On passe maintenant aux critiques des films, ou au moins à la première critique, avec Amore Mio.
Qu'est-ce que tu fais là? Rends-moi ça, rends-moi ça!
Tu sais que ta sœur est arrivée?
On se retrouve au cimetière?
Je veux pas y aller.
Quoi?
Qu'est-ce que tu fais? Je vois rien!
Oh! T'es complètement taré, descends de ce camion là!
Je vais juste rouler!
J'ai fait quoi pour que tu viennes plus me voir?
C'est juste la vie, quoi. Il y a des moments où on a moins le temps, on n'a pas le même âge, t'as tes trucs, j'ai les miens.
Tu fais quoi, Lola?
Mais c'est fou, Margot!
T'es pas obligée de venir avec nous.
Les choses vont redevenir normales, hein.
Et pourquoi faudrait que ce soit normal?
C'est moi qui suis là avec le cul plein de boue.
Je viens de perdre ma putain de vie, c'est quand même la moindre des choses que t'aies de la boue sur le cul, non? Tu crois que ça me fait rien que ma sœur elle se foute de mon existence?
Lola?
Elle est pas terminée ta vie, Lola.
Et celle de ton fils encore moins.
Ça, tu veux dire que je le connaissais pas, mais un peu quand même, donc je te le dis. Elle était chiante, Raphaël. Hein? L'amour, ça doit partir en même temps que les gens.
Est-ce qu'on est toujours une famille? Quand on est que deux, je veux dire.
Bonne question, est-ce qu'on est toujours une famille quand on est deux? Amore Mio, film de Guillaume Guix, dans ses premiers longs métrages, avec Alison Paradis et Elodie Bouchez. Alors Olivier, tu es allé voir ce road movie autour de deux sœurs et tu as aimé.
Oui, effectivement, j'avoue que j'y allais sans grande conviction. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin j'y allais sans grande conviction. Et ce film m'a donné une espèce de contentement complet. Le contentement complet qu'on a à voir un bon film. Bien fait, qui répond à nos attentes d'amateurs de cinéma, enfin, etc. En effet, comme tu le dis, premier film de Guillaume Buix, C'est Buix, hein, Guix, pardon. Court, relativement court, un format assez court, 1h20. Ça contribue d'ailleurs, je crois, à sa qualité, parce qu'il est d'une certaine manière assez concentré, autour d'une histoire extrêmement simple, un événement de la vie, un événement exceptionnel, mais un événement comme ça de la vie. Une jeune femme, Lola, hein, interprétée par Alison Paradis, perd son compagnon dans un accident de moto du coup se retrouve seule avec son gamin de 8 ans, Gaspard, très bien interprété aussi d'ailleurs par Viggo Ferreira-Reidier, qui en fait pas trop, qui est bien présent là. Et le film commence, on va se rendre à l'enterrement. Donc Lola, avec son fils, va se rendre évidemment aux obsèques de son compagnon, avec sa mère, etc. Et elle est emmenée, elle doit être emmenée aux obsèques par sa sœur, Margot, interprétée par Élodie Bouchez. Et au dernier moment, eh bien, Lola freine des cas de fer. Elle fait plus que freiner des cas de fer, elle fait demi-tour. Et elle dit « je n'irai pas à cet enterrement ». Moi, j'ai besoin de rouler, j'ai besoin à peu près de tout, mais pas de me rendre à ces obsèques où on va s'attendre à ma tristesse. Et où on va s'attendre à ce que finalement je joue le rôle de la femme éplorée qui a perdu son mari et qui reste toute seule avec son gamin, etc., etc. Ce qui est vrai d'ailleurs. Mais j'ai pas envie de leur jouer ça. Et eux, ils vont se sentir obligés de jouer la compassion, etc. Et j'ai pas envie de voir ça, viens, on se casse. Alors, Élodie Bouchez, qui est la sœur aînée, psychologiquement très différente, dans un premier temps, comprend pas du tout ce qui se passe. Et puis l'autre, Lola, elle force un peu l'affaire. Donc, ils se mettent tous les trois dans la voiture de Margot, Élodie Bouchez. Et ils partent direction le sud, l'Italie, la Sardaigne peut-être, etc. Après, on ne sait pas.
Pour quelque chose donc de plus solaire.
De complètement solaire. On dirait le sud. Je veux du soleil. D'ailleurs, c'est une chanson qui revient périodiquement dans le film, que la sœur cherche. Elle l'a dans la tête sous forme de la 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 la. Et puis elle cherche. Et puis finalement, il découvre que c'est « Je veux du soleil ». Alors voilà le pitch en quelque sorte. Hein. J'en dis pas plus parce que ce serait évidemment dévoiler ce qui ne doit pas l'être. Et donc on rentre dans quelque chose qui est une espèce de road movie. Et alors ce qui est curieux, c'est la façon dont ce road movie commençant est filmé, c'est-à-dire en format 1:33, un format quasi carré, avec une photographie. Donc la photographie, je suis un petit peu perdu dans mes notes. La photographie est de Noé Bach, enfin comme le musicien, qu'on a déjà vu dans d'autres films. Une photographie très forte. Je vais tenter de m'expliquer. C'est une photographie qui est inspirée de l'œuvre de Nan Goldin, qui est une photographe américaine de Washington D.C. Et qui fait une photographie que je qualifierais de crue, d'une certaine manière.
C'est sûr.
Ouais. Voilà. Et inspiré d'ailleurs, et décidément ça va être le thème de l'émission, Nan Goldin photographie essentiellement sa famille depuis 1963, je crois, date à laquelle elle a perdu sa sœur qui s'est donnée la mort. Et depuis, elle fait une photographie qui exprime ça. C'est-à-dire avec des couleurs très tranchées, des portraits très très rapprochés des gens. On voit la peau, on voit les expressions, on voit les rides d'expression, on voit. Et donc une photographie très crue qui peut passer pour froide, peut-être presque, et donc qui nous donne une grande proximité à l'égard des personnages. Et comme je vous le disais, ce film, il parle d'un bref événement dans l'existence, et c'est comme si on l'observait au microscope d'une certaine manière. Et ça pourrait passer presque pour impudique, mais ça ne le devient jamais parce que justement, il y a un esprit de pudeur qui plane au-dessus de tout ça. Et une espèce, alors c'est dit par, je crois, Guix lui-même, dans un esprit un peu punk. Alors je pense que de ce point de vue-là, ça me parle un peu, parce que, pour ses yeux, hein. Mais l'esprit punk, c'est quelque chose que j'ai beaucoup partagé. C'est parfois un peu vulgaire, c'est un petit peu violent, c'est un petit peu rentre-dedans, comme ça. Mais toujours avec pudeur et toujours pour la bonne cause, à savoir, bon, la seule cause qui importe en matière d'art, je crois, de philosophie, à savoir la vérité. Il s'agit d'être vrai, et pour être vrai, parfois, il faut un petit peu rentrer dedans. Et c'est ce que, je crois, Guillaume Guix fait merveilleusement bien, avec un couple d'actrices, donc Élodie Bouchèze et Alison Paradis, qui font deux sœurs très très crédibles, malgré leurs différences physiques, une très brune, une très blonde, etc. Mais font deux sœurs très très crédibles et qui incarnent des rapports de sororité également très crédibles, très forts et qui évoluent dans la durée du film.
Je pense à ce regard que tu évoquais de Nan Goldin qui photographie les membres de sa famille et qui les scrute finalement, qui est presque intrusive, qui va dans leur intimité physique. Oui. Et je ne savais pas, puisque le potin n'est pas ma tasse de thé vraiment, mais Alison Paradis est la compagne de Guillaume Guix.
Je me le suis laissé dire.
Ouais.
Mais comme d'habitude, ça nous ressemblons.
Non.
Je n'ai pas grand intérêt pour ce genre de potin. Ceci dit, effectivement.
Mais ça peut éclairer cette manière, voilà, de filmer du coup une très proche.
Mais d'un point de vue technique, je dirais que c'est rendu par le format, avec une mise au point très très nette sur le premier plan, qui sont la plupart du temps des visages, et un background, un arrière-fond un peu flou, ce qui oblige le regard finalement à se fixer. Alors d'un point de vue artistique, si j'ai deux minutes, d'un point de vue artistique, j'y ai vu une sorte de memento mori, de peinture baroque comme ça, d'une vanité, parce que quoi qu'on dise, on a quand même une réflexion sur les âges de la vie, et sur la naissance et sur la mort. Alors les âges de la vie, parce qu'effectivement, on a représenté à travers la famille, évidemment, une famille représente, les membres d'une famille représentent les âges de la vie. Donc on a la vieillesse de la mère, on a la maturité des sœurs, et puis on a l'enfance de Gaspard, le garçon de Lola. Donc on a les âges de la vie, et puis on a la naissance, pour des raisons que je ne dévoilerai pas. Et puis, évidemment, on a la mort du papa, mort violente dans un accident de moto. Donc, en même temps,
Du compagnon.
Donc, en même temps, une réflexion assez profonde et précise en même temps sur les âges de la vie et sur la mort, oui.
Amore mio, film de Guillaume Guix avec Alison Paradis et Elodie Bouchèze. On peut le voir toute cette semaine au navire d'Aubenas. Et alors, tu me disais en préparant l'émission que ce film Amore mio t'avait finalement fait penser, enfin entrer en résonance avec un film dont on a parlé la semaine dernière, mais dont on va reparler un petit peu, qui s'appelle La famille Asada. On se repasse pas la bande-annonce, mais tu vas nous en parler.
Je peux peut-être vous la chanter, mais bon, c'est problématique quand même. Alors, plus rapidement, oui. Non, c'est vrai que de mon côté...
Pourquoi tu fais ce lien ?
Voilà, alors je fais ce lien pour une raison toute simple, c'est que notre cinéaste japonais, dont je vais retrouver le blaze...
Nakano.
Lui-même, est lui-même passionné par la question de la famille. Je crois qu'il a perdu son père alors qu'il était enfant. Et il est tombé, entre guillemets, sur un photographe japonais, Masashi Asada, justement. Lui-même est extrêmement focalisé sur la question de la famille. Alors, je vais essayer d'être relativement rapide, relativement clair.
On parle de focal, on parle de cinéma, de photographie, mais tout
voilà.
ça donne le vertige.
Donc j'essaye d'être clair. Le cinéaste, donc, en question s'est intéressé au travail du photographe Masashi Asada et à sa famille. Masashi Asada est un photographe donc qui a mis un bon moment à se trouver sa vocation. Il est donc resté dans sa famille avec son frère aîné et ses parents assez longtemps avant d'avoir une espèce d'élément déclencheur. Son père, à son anniversaire, lui a offert son appareil. C'est-à-dire que le papa, qui prenait toujours la famille en photo pour faire les cartes de vœux en particulier, une année, prend son appareil de photo et l'offre à son fils cadet. Et ça provoque la naissance d'une vocation chez le fils cadet, qui, à vrai dire, ne sait quand même pas trop quoi en faire de cet appareil photo, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il y aurait un sujet très intéressant et qu'il a à portée de la main, qui serait la famille. Et donc, il commence à photographier sa famille, mais il photographie sa famille dans des mises en scène très élaborées où la famille joue à chaque fois un rôle. Pilote de Formule 1, membre de la mafia japonaise, employé d'un restaurant, cambrioleur, enfin, etc. Pompier japonais avec tout le costume, enfin, etc., qui ressemble un petit peu à des samouraïs. Enfin. Et il fait à chaque fois des... Et il a photographié sa famille, sa propre famille, avec lui-même intégré avec un déclencheur retard, comme ça, donc il fait partie de l'image. Une image évidemment très élaborée en amont, parce qu'il y a toute une histoire à chaque fois. Et de tout ça, il fait un album. Il fait un album, et cet album, il est publié, et il obtient des grands prix de photographie au Japon. Arrive Fukushima, le tsunami, et ce même photographe, qui, après la publication de son album, s'est consacré beaucoup à la photographie de famille, décide de rejoindre une famille qu'il a photographiée du côté de Fukushima dans l'espoir de les retrouver. Malheureusement, il ne les retrouve pas dans un premier temps. Et il tombe sur un jeune qui, ne sachant trop quoi faire sur le site de Fukushima au milieu des dégâts du tsunami qui sont monstrueux, ce jeune homme a décidé de récupérer partout où il pouvait les albums de photos de famille. Le photographe en question le rejoint, évidemment, c'est son truc, la photographie et les familles, et il commence à nettoyer les photos, à les exposer pour que les gens puissent venir les récupérer. Et Masashi Asada a fait un deuxième album où il raconte cette aventure d'un jeune homme qui récupère les photos autour du tsunami. Donc, famille, photographie, c'est très présent aussi dans le film dont nous avons parlé juste avant, Amore Mio, parce que le papa, il laisse son téléphone et son appareil photo qui est dedans au gamin, qui n'arrête pas de filmer et de photographier sa maman, sa tante, etc. D'où la question qu'on entend la bande-annonce à un moment donné, quand on n'est plus que deux, est-ce qu'on est encore une famille ? Donc la photographie, la famille, dans les deux cas, en pleine lumière, et dans le cas aussi de Nan Goldin, dont on a parlé. Alors, moi, je veux parler d'une fenêtre ouverte sur la culture japonaise. C'est qu'effectivement, qu'on pense à la culture Shinto et à la coexistence dans ces histoires de la nature et du surnaturel, avec des apparitions comme ça, un petit peu étranges, qu'on pense à la culture taoïste qui imprègne la culture japonaise, où effectivement toutes les choses sont de passage, partent de la source, de la voie, et y retournent. Qu'on pense à l'influence bouddhique, l'expérience fondamentale du bouddhisme, c'est l'impermanence, le passage de toutes choses, en particulier de l'existence humaine. Siddhartha l'éveillé, il s'éveille en voyant passer un cortège funéraire, un handicapé, un vieillard, etc., le passage. Et ça a été confirmé au moment de la culture Edo, au début du XVIIe siècle et jusqu'à l'ouverture du Japon en 1868. Ce sens de l'impermanence, ça a donné un phénomène culturel qui occupe toutes les trois siècles de la période Edo, qui est ce qu'on appelle image du monde flottant. Ce qui est flottant, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est le monde. Le monde, que ce soit dans une philosophie shinto, taoïste, bouddhiste ou contemporaine, le monde est considéré comme passager, comme un flux impermanent de toute chose. Ça a été confirmé en quelque sorte par la culture bourgeoise de l'ère Edo, où on est rentré dans un sens quand même de la légèreté des choses, avec le théâtre kabuki, etc. Et et dans un esprit déjà de un petit peu de consommateur. Et ça a donné lieu donc à cette forme d'art image du monde flottant, en particulier en peinture, et surtout les estampes japonaises, qu'on connaît très bien, nous, à travers Okusai, Hiroshige, Utamaro, etc. Et l'idée, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'une estampe, finalement, japonaise, de cette époque-là? C'est le moyen de fixer une scène de la vie quotidienne, anodine, extrêmement passagère, d'où le rapport avec la bande dessinée, quelque part, hein, de la fixer dans une œuvre qui est dupliquée, qui est bon marché. Voilà. Et ça a donné le goût contemporain pour les mangas, pour le haïku.
C'est ce que j'allais dire.
Voilà.
Saisir un instant, donner à percevoir juste la force d'un instant. Voilà. C'est la définition d'un haïku.
Arrêter le flux. Et ça m'a... J'ai, à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai plus jamais vu les touristes japonais dont on se moque si facilement, qui descendent de leur bus, en groupe comme ça, avec les petits drapeaux, les pancartes pour qu'ils se perdent pas dans Paris. Moi, j'étais souvent à Paris, puis je les voyais un petit peu. Et en fait, je crois que c'est profondément leur culture, c'est-à-dire qu'il s'agit, il faut se mettre à la place d'un japonais qui débarque à Paris, le Louvre, Paris, c'est une ville musée. Il est pris dans un flux de merveilles. Il sait que ce sont des merveilles. Il a les mêmes chez lui. Donc il sait très bien. Il a un sens profond. Le touriste japonais de base, il a un sens profond de la valeur de ce qu'il est en train de voir. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Tout naturellement, il veut le fixer. Il veut rentrer avec, d'une certaine manière. Eh ben, malheureusement, alors c'est un peu, j'aime pas parler comme ça, mais le tsunami, finalement, c'est ça. Mais dans une espèce de paroxysme, tout a été embarqué et au milieu de cette catastrophe, la volonté de fixer ce qui peut encore l'être, par exemple dans une photo. Et je pense que c'est ce que le réalisateur de La Famille Azada en cinéma a parfaitement réussi. D'où, effectivement, tu parlais de vertige. On est intellectuellement pris dans des tas de problématiques de l'image en mouvement, de l'image fixe, etc., etc. Mais, puisque l'enjeu, il est d'arrêter le temps, il est de lutter contre la mort et la catastrophe, on a un objet qui n'est pas qu'un objet adroit techniquement. On a quelque chose qui touche profondément, d'autant plus profondément, naturellement, que ça touche à la... comme dans Un mort et mignon, ça touche à la famille, ça touche à la vie, à la mort. Enfin, ça touche à l'essentiel, quoi.
À la vie, à la mort, eh bien, on peut regarder donc La Famille Azada, qui est à l'affiche du navire encore toute cette semaine. Ouais. Amor e mio, dont on a parlé aussi toute cette semaine au navire. Merci beaucoup, Olivier.
Merci.
On poursuit avec l'agenda. Reste là pour l'agenda. Peut-être que ce sont des films que tu as vus. Ce soir à 20h30 à Tueil, il y aura Le Parfum Vert, qui est une fantaisie, un petit bonbon entre Tintin et Hitchcock, film de Nicolas Parisier avec Sandrine Kiberlin et Vincent Lacoste. Donc c'est ce soir à 20h30 à Tueil. Demain, on parle foot au féminin au navire à Aubenas, et c'est grâce à l'association Forma, qui est une association dédiée à la culture chorégraphique, la culture de la danse, qui fait tout un focus en ce mois de février sur la thématique du foot féminin. Donc demain, samedi, on commence par l'inauguration dès 19h30 de l'expo Biportrait footballeuse de Mickaël Felippo, qui a réalisé 11 biportraits des interprètes de la pièce footballeuse. Puisque je vous dis, c'est organisé par Forma. Donc il y a de la danse, donc il y a une pièce chorégraphique qui s'appelle Footballeuse, et Mickaël Felippo en a tiré 11 biportraits. Et Colline du Quédic de Forma, de l'association Forma, viendra nous en parler autour d'un verre. C'est le principe de l'inauguration, donc à partir de 19h30. Au navire.
Nous ne sommes pas très loin de nos films, encore une fois.
C'est ça. Et à 20h30, on poursuit la soirée samedi, il y a la projection du documentaire « Taper dans la balle ». La réalisatrice Sophie Lally suit l'équipe de football féminin de la pièce footballeuse et qui, elle, éclaire cette pratique à travers des paroles, des gestes et des corps qui révèlent des enjeux à la fois intimes et sociaux. Donc c'est demain à Aubenas, c'est 4 € pour le film. Ou si vous voulez prendre un petit peu d'avance et prendre déjà votre billet pour la conférence spectacle qui aura lieu au navire le 23 février à 19h, toujours dans cette thématique foot au féminin. Donc il y aura une conférence spectacle, une histoire du football féminin le 23 février. Et donc le film de demain plus la conférence du 23 février, c'est 10 €. Voilà, j'ai tout dit pour cette soirée foot au féminin. Je me dépêche avec deux autres films. Dimanche au cinéma Le Regain, Dutheil et ses ciné brunch. Donc le principe, c'est à midi au bistrot du Regain, il y a un brunch maison. Et ensuite, on se nourrit de cinéma italien avec au choix L'Immensità, ou donc L'Immensità qui est toujours sur vos écrans en Ardèche, ou Le Premier qui l'a dit, c'est un film de 2010 où il est question d'un coming out en famille. Toutes les infos sur le site du cinéma Le Regain Dutheil. Et puis, comme c'est les vacances et qu'il faut bien occuper les enfants, ou plutôt parce que c'est beau d'ouvrir les enfants à l'art, projection du film Ernest et Célestine, voyage en Charabia, mercredi 15 à Tueil et jeudi 16 à Lussas à 14h30. Et on le doit grâce au formidable travail de la Maison d'Images. Je dis juste un truc, point levé pour la fin. Je l'ai déjà dit, mais il y a des projections spéciales liées au mouvement de grève, à la contestation contre la réforme des retraites. Et donc il y a des projections qui sont organisées pour récolter des bénéfices et alimenter des caisses de grève. Par exemple, demain à Barjac, est rediffusé l'excellent documentaire La Sociale de Gilles Perret sur toute l'histoire de la sécurité sociale et montrer à quel point les utopies sont possibles. Il suffit d'y croire et de faire en sorte
Simplement des alternatives au libéralisme échevelé de M. Macron est possible, tout simplement. Il suffit d'être un peu intelligent, ça nous changera.
Voilà, donc allez voir La Sociale, ça vous fera du bien, c'est au cinéma de Barjac à 21h, demain c'est entrée à prix libre, projection puis discussion, et donc tous les bénéfices alimentent une caisse de grève. Et dimanche 12 février à Valgorge, il y a deux films, une histoire de la grève générale, un documentaire de Olivier Azam, que je ne connais pas, et donc ça c'est à 17h30, et à 20h, projection de Louise, évidemment sur Louise Michel, de Jean-François Galotte. Même principe. Voilà, vous savez tout sur le cinéma, tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci Sylvain en régie. Merci de ta patience, puisqu'on déborde toujours un peu. Merci Olivier pour ton amour du cinéma. Et on se retrouve vendredi prochain. Bye bye.